BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est l'économiste dont on parle. Il publie Le Triomphe de l'Injustice. Gabriel Zucman, rebonjour. Merci d'être là, en tous les cas.
Bonjour.
Vous êtes, je disais, l'homme qui murmure à l'oreille des démocrates, puisqu'on dit que vous faites partie de ceux qui inspirent le programme, notamment de Bernie Sanders et Elizabeth Warren aux États-Unis. Vous êtes professeur à Berkeley et votre co-auteur aussi est professeur à Berkeley, Emmanuel Saez. Donc, Le Triomphe de l'Injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie, parce qu'il y a quand même un côté aussi assez politique dans les propos que vous tenez pour expliquer que l'injustice sociale, fiscale, aujourd'hui n'est plus tenable parce qu'il y a trop d'inégalités. On va revenir sur tout ça. Juste une question. Pourquoi tous les deux, vous êtes prof à Berkeley, alors vous êtes français ?
Moi, vous savez, j'ai fait toutes mes études en France, ma thèse, et puis comme tous les jeunes chercheurs français, on est encouragé à faire une mobilité à l'étranger, à voir comment ça se passe ailleurs. Donc moi, j'étais curieux de me frotter au système universitaire anglo-saxon, de découvrir une grande université publique comme Berkeley. Mmh. Je suis jamais parti dans la perspective d'un départ définitif.
D'accord. Donc un jour, vous reviendrez en France. Non, mais parce que si je vous pose cette question, c'est que souvent, on dit que les conditions... Il y a beaucoup des vous avez été consacré le meilleur jeune économiste de France. Vous avez reçu le prix de la part du Cercle des économistes, c'était il y a 2 ans. Est-ce que... Pourquoi on vous retrouve tous à l'étranger ? Vous n'êtes pas le seul.
Pas tous. Il y a plein d'excellents économistes
les jeunes,
en France.
Les jeunes.
En dépit du fait que la France n'investit pas suffisamment dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est quand même assez fantastique. Moi, je tiens à souligner la qualité des travaux scientifiques qui sont réalisés en France dans le contexte de disette budgétaire. Oui. Donc, on a des très, très bons chercheurs en France. Par ailleurs, je trouve ça sain pour les jeunes chercheurs de passer quelques années à l'étranger.
Et vous avez tout à fait raison. Est-ce que simplement les conditions de travail sont bien meilleures ?
Sont pas extrêmement différentes. Honnêtement, il y a des budgets de recherche, oui, qui sont importants, qui permettent d'avoir des assistants de recherche, qui permettent de collecter des données, d'accéder à des données. Mais les conditions sont totalement différentes de ce qu'on pourrait
avoir. Est-ce que vous êtes beaucoup mieux payé que si vous étiez à Paris ?
Oui, les salaires sont plus élevés.
Bah, oui, d'accord.
Dans mon cas, c'est pas du tout ce qui est déterminant.
Non, bien sûr, mais c'est intéressant parce que comme vous êtes avec nous,
professionnel.
À mon avis, il y a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui se posent la question, comme moi, je me les pose. Hein, il n'y a aucun voyeurisme là-dedans. C'est juste intéressant de voir comment ça se passe pour des gens aussi, entre guillemets, brillants que vous. Donc, l'injustice fiscale. D'abord, peut-être, pourquoi est-ce que vous avez travaillé sur cette question ?
C'est quoi l'injustice fiscale ? Oui. C'est le phénomène par lequel les grands gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire les sociétés multinationales et leurs actionnaires, voient leurs impôts baisser, tandis qu'en même temps, les acteurs économiques qui ont peu profité ou qui ont souffert de la mondialisation, les classes populaires, les petits commerces, les retraités, eux voient leurs impôts augmenter. Donc pour le dire différemment, c'est la conjonction de deux phénomènes, montée des inégalités d'un côté, baisse de la progressivité fiscale de l'autre. Et simplement, la mondialisation n'est pas soutenable dans sa forme actuelle si elle est synonyme de toujours moins d'impôts pour ses grands gagnants et de plus d'impôts pour ceux qui n'en profitent pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette question. On s'est intéressé au cas des États-Unis parce que les États-Unis sont le pays où cette injustice fiscale a été la plus marquée.
Oui, la plus criante, on va
dire. La plus criante, parce que les États-Unis sont le pays développé où les inégalités ont le plus augmenté depuis le début des années 80, d'une part, et d'autre part, le pays où la progressivité de l'impôt a le plus diminué. Parce qu'il faut se souvenir, et on va y revenir, que les États-Unis avaient un système fiscal très progressif, sans doute le plus progressif au monde dans les décennies d'après-guerre. Et aujourd'hui, quand on prend en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires américains, on voit que toutes les catégories sociales payent environ 28% de leurs revenus en impôts, à l'exception des milliardaires, des ultra-riches, dont le taux effectif d'imposition en 2018 s'est élevé à 23%. Donc les milliardaires américains payent moins d'impôts en proportion de leurs revenus que les classes populaires et que les classes moyennes.
Oui, parce que c'est les cotisations sociales. On va revenir là-dessus parce que, en fait, l'objectif de votre livre, donc, en plus, il y a une version française, donc vous vous expliquez pourquoi ce n'est pas qu'un phénomène américain, même si c'est au cœur de la campagne présidentielle, du moins du côté des démocrates. Vous dites que c'est aussi un débat qu'on retrouve évidemment au niveau mondial, mais au niveau français et européen, parce qu'il n'y a pas eu de concertation fiscale, ça n'existe, d'harmonisation fiscale. Et là-dessus, vous avez fait à peu près 100 ans de statistiques aux États-Unis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Juste, c'est vraiment au cœur de la campagne présidentielle,
Les questions,
cette injustice fiscale ?
Les questions
injustice
d'inégalité fiscale. Et de fiscalité, ouais. Oui, parce que les Américains, une majorité d'entre eux, sont fatigués de la dérive inégalitaire et quasi oligarchique qui a amené Donald Trump au pouvoir. Quand on demande aux Américains, est-ce que vous pensez d'abord que les riches payent suffisamment d'impôts ? Une grande majorité répond non. Est-ce que vous pensez que les grandes multinationales payent suffisamment ? Pareil, non. C'est pour ça qu'un certain nombre de candidats, aujourd'hui à la primaire démocrate, ont proposé d'introduire par exemple des impôts sur les très grandes fortunes, des propositions ambitieuses. Bernie Sanders propose de taxer toutes les fortunes au-delà de 32 millions de dollars, par exemple. Quand on demande aux Américains qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, non seulement 70% des démocrates se déclarent en faveur, mais plus de 50% des républicains et des indépendants répondent aussi oui.
Oui,
nous soutenons une taxation des grandes fortunes.
Je suis d'accord avec vous, et encore, parce que Gabriel Zoupan, regardez le résultat des primaires, Bernie Sanders s'est fait bâcher, pardonnez-moi l'expression, mais il a au très fond des sondages, au point qu'on ne sait pas s'il va continuer ou pas, quoi, vous voyez. Donc on ne peut pas dire que...
Oui, sauf que là, il a gagné les deux premiers États, quand même.
Oui, enfin non, il n'a pas gagné, non.
Il a gagné le vote populaire dans l'Iowa, et il a gagné le New Hampshire.
Enfin, pas le résultat de l'élection, le New Hampshire, c'est tout près de chez lui, donc il était chez lui, mais il a fait un peu un faible score.
Si vous alors. On peut parler des chances, des perspectives électorales, de la viabilité politique de plateformes comme ça. Donc, Bernie Sanders, d'abord, personne ne sait qui va gagner la primaire.
Non,
c'est très ouvert. Tout le monde peut gagner.
Ouais.
Et puis ensuite, contre Trump, tout est possible. Maintenant, si vous regardez les sondages aujourd'hui, qui est considéré comme favori, Bernie Sanders est le favori à ce stade-là, légèrement, de la primaire démocrate, avec Michael Bloomberg qui monte assez fort à coups de dépenses publicitaires de centaines de millions de dollars. Et on y verra plus clair après le Super Tuesday, pendant lequel beaucoup d'États vont désigner leurs délégués. Simplement, j'insiste sur le fait que les propositions que défend Bernie Sanders, assurance maladie universelle, baisser les frais d'inscription à l'université, augmenter le salaire minimum, tout ça est extrêmement... Introduire un impôt sur les très grandes fortunes, tout ça est extrêmement populaire dans l'électorat démocrate. C'est pour ça qu'il a ses chances. Son pari, par ailleurs, n'est pas un pari absurde, consiste à dire il y a à peu près 50% d'abstentionnistes aux élections présidentielles américaines. Les classes populaires, les minorités, les jeunes votent très peu. Donc en mettant un peu la barre à gauche, il espère récupérer une partie de cet électorat. Il va peut-être perdre des électeurs centristes, mais son pari, c'est qu'in fine, ça va plus que compenser. On verra si l'histoire lui donne
raison. Alors, quelle est votre théorie, Gabriel Zucman ? Qu'est-ce que vous défendez ? On a compris le pourquoi, bien que le point de départ, c'est juste ce débat Trump-Clinton, où pour une fois, Trump a dit « Moi, je ne paye pas d'impôts sur le revenu. » Donc, avoir un futur président, enfin, en tout cas, quelqu'un qui candidatait, c'est vrai que ça a été une espèce de révolution, quand même, d'avouer « Ben non, je suis smart, je suis quelqu'un très smart, de malin, parce que je ne paye pas d'impôts. »
Oui. On commence le livre en rappelant cette anecdote.
Oui.
C'est le débat, un des débats dans la présidentielle de 2016 qui oppose Clinton à Trump. Clinton attaque Trump en disant « Oh là là, il ne paye pas d'impôts, c'est scandaleux. » Ce à quoi Trump répond « That makes me smart », ça veut dire que je suis malin.
Ouais.
Et là, elle n'a rien à lui répondre, parce que dans son programme fiscal, il y a des petites mesurettes technocratiques, sans grande ambition, alors que si elle avait répondu quelque chose du type « Écoutez, c'est terminé. Moi, à partir du moment où je suis élu, il va y avoir un impôt sur la fortune, mettons, et les milliardaires comme vous vont devoir payer... » des impôts, là ça aurait été peut-être de nature à changer la dynamique. Ça illustre ce que je disais précédemment, c'est que beaucoup d'électeurs ne se sentaient pas représentés par, que ce soit Donald Trump chez les Républicains ou par des démocrates comme Hillary Clinton.
Oui,
donc là, dans ce cycle électoral-là de 2020, on est dans quelque chose de différent.
Ok, alors, votre thèse de départ, donc, c'est la croissance des inégalités qui font qu'à votre avis, ce n'est plus tenable. Et donc il faut une autre fiscalité. Mais est-ce que c'est vraiment la solution ?
Alors, nous, on a écrit ce livre pour essayer de s'attaquer à un défaitisme qui consiste à dire qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, il serait devenu complètement utopique et impossible de taxer les hauts revenus, les grandes fortunes, les sociétés multinationales. Beaucoup de dirigeants, d'hommes et de femmes politiques, de gauche comme de droite, se sont laissés convaincre au cours des dernières décennies par ce défaitisme qui a gangréné, je trouve, les esprits. Donc nous, on écrit ce livre pour dire une chose très simple, qui est la suivante. Il est parfaitement possible de réconcilier la mondialisation d'un côté et la justice économique et fiscale de l'autre. Donc, en pratique, de taxer les hauts patrimoines, malgré les risques d'expatriation, et je vais expliquer complètement comment, de taxer les grandes sociétés multinationales, bien qu'elles puissent déplacer leurs sièges sociaux dans des paradis fiscaux ou enregistrer leurs bénéfices aux Bermudes ou en Irlande. On peut inventer des solutions. Donc nous, dans ce livre, on essaye d'inventer ces solutions-là qui s'appliquent au cas des États-Unis, mais bien plus largement au cas de la France, au cas de l'Union européenne, et qui sont même en fait ces solutions plus importantes pour la France et pour l'Union européenne que pour les États-Unis, parce que les forces de la concurrence fiscale, les forces de l'évasion fiscale se sont exercées avec encore plus d'intensité dans un pays comme la France au sein de l'Union européenne.
Mais quand vous dites le triomphe de l'injustice fiscale est un déni de démocratie, j'ai envie de dire, est-ce que la démocratie, elle repose uniquement sur un impôt et une taxation très forte? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi faut-il payer toujours plus d'impôts?
C'est un déni de démocratie.
Vous voyez, voilà.
C'est un déni de démocratie au sens où la baisse des taux d'imposition sur les très grandes fortunes, le fait par exemple que les milliardaires américains payent moins en proportion de leurs revenus que les classes moyennes et populaires, ce n'est pas l'expression d'un souhait démocratique.
Et c'est parce que la population, à Mark Zuckerberg, oui, quelque chose, il a créé quelque chose.
J'en reviens à ce que
vous dites. Elon Musk, il a créé quelque chose.
Quand on leur demande aux électeurs américains,
oui,
est-ce que vous pensez que les riches paient suffisamment d'impôts? Une grande majorité répond non. Est-ce que vous soutenez un impôt sur les grandes fortunes? Une grande majorité répond oui. C'est en ce sens qu'il y a un déni de démocratie. La politique fiscale qui a été mise en œuvre aux États-Unis au cours des dernières décennies et en partie aussi en France et dans d'autres pays de l'Union européenne ne reflète pas ce que souhaite la majorité de la population. Simplement, la raison pour laquelle elle a été mise en œuvre, c'est que c'est ce défaitisme que j'évoquais. C'est que tout le monde pense qu'il est impossible. Peut-être que ce serait bien, on souhaiterait que Mark Zuckerberg paye plus que 0%, parce qu'aujourd'hui, il paye 0% en impôts.
La population souhaiterait,
la majorité.
Sur la partie, il faut expliquer que c'est sûr. Enfin, j'ai lu un livre formidable qui s'appelle de Gabriel Zucman, hein, donc c'est pour ça. C'est simplement parce qu'il paye quasiment rien sur son impôt personnel.
Oui.
Voilà. Mais par contre, Facebook paye beaucoup d'impôts.
Facebook est devenu assez experte dans la délocalisation des bénéfices aux îles Caïmans, etc. Donc, il y a deux choses. Il y a non seulement Facebook ne paye pas beaucoup d'impôts sur les sociétés,
ouais,
à coup d'optimisation fiscale. D'abord, moins que le taux normal, qui s'applique aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu quand même une grande réforme fiscale aux États-Unis en 2017 qui a ramené le taux d'impôt sur les sociétés de 35% à 21%.
Donc 21%. Avec un succès économique incroyable. Hein,
on peut en parler. Mais 21%, déjà, c'est pas beaucoup. Mmh. Et en plus, Facebook paye moins que ça à coût d'optimisation fiscale.
Et c'est pas beaucoup par rapport à quoi, 21%? Pourquoi vous dites que c'est pas beaucoup?
C'est pas beaucoup par rapport, si vous voulez, aux impôts que payent les travailleurs à bas salaire, qui, eux, qu'est-ce qu'ils payent? Ils payent des cotisations sociales. Ouais. Aux États-Unis, c'est 15% dès le premier dollar gagné. Donc, ouais, si vous travaillez au salaire minimum qui est très bas aux États-Unis, tout de suite, vous avez 15% d'impôts. Puis, ensuite, ils payent des impôts sur la consommation. En France, ce serait la TVA. Aux États-Unis, les États, les municipalités, les collectivités locales ont tous leur propre impôt sur la consommation. Ce qui fait qu'au total, quand on additionne ces taxes régressives, les cotisations sociales, les taxes sur la consommation, on se retrouve dans une situation où les classes populaires payent 25, 26, 27% de leurs revenus en impôts. Mmh. Quand le seul impôt que payent les ultra-riches, c'est effectivement l'impôt sur les sociétés, dont le taux nominal est de 21%, dont le taux effectif est plutôt de l'ordre de 10-15%, donc ils payent 10-15%. Et ensuite, ils font l'optimisation fiscale suivante. Quand on prend Mark Zuckerberg, mais Jeff Bezos, c'est dans le même cas, Warren Buffett, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à leur société, ne payez pas de dividendes. Comme ça, ils n'ont aucun revenu soumis à l'impôt individuel au barème progressif. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des milliardaires dont le taux effectif d'imposition, ça va être juste 10-15%. Quoi. Donc 10-15% pour les milliardaires, 25-30% pour les classes moyennes et populaires. Vous voyez que là, il y a un problème, si vous voulez. C'est ça l'injustice fiscale. C'est-à-dire, une norme de justice minimale, ce serait que les milliardaires ne payent pas moins en proportion de leurs revenus que le reste de la population. Après, on peut être plus ambitieux et dire un système fiscal juste devrait être progressif. Tout prélèvement obligatoire compris, les milliardaires, les très grandes fortunes payent plus que les classes moyennes et populaires. C'est pas aux économistes de dire, si vous voulez, quel doit être le
taux d'imposition. Non, vous le dites, c'est là où vous avez un côté un peu politique aussi dans votre livre, enfin engagé en tous les cas, non, on peut dire ça comme ça.
Si vous voulez, nous on n'est pas là en train de dire qu'il faudrait que tel groupe de la population paye X % en impôts ou Y. C'est pas aux économistes, c'est aux citoyens de décider via un débat démocratique et un débat parlementaire, via des élections. Là où les économistes peuvent se montrer utiles, c'est de plusieurs façons. D'abord, en établissant des faits sur qui paye quoi, quand on prend tout en compte, Deuxièmement, en montrant la diversité des futurs possibles. Donc, par exemple, on a développé un site internet où les internautes peuvent faire des réformes fiscales, créer un impôt sur la fortune, changer le barème de l'impôt sur le revenu et voir comment ça déformerait la progressivité.
Il y a vraiment effectivement des données, il y a une recherche très importante sur les données statistiques. Donc, vous montrez bien, on ne peut pas tout raconter ici, mais vous montrez bien que si on augmente d'1%, les conséquences que ça sur le basculant. Donc, ça peut nourrir des réflexions.
Voilà. Nourrir un débat démocratique, exactement. Ne pas s'y substituer. Nourrir un débat démocratique. Et la troisième façon dont les économistes peuvent se montrer utiles, c'est en jouant un peu le rôle de plombier. Vous savez, Esther Duflo, notre prix Nobel d'économie, elle a écrit un article célèbre qui s'appelle « L'économiste comme plombier ». Et moi, je trouve que ça s'applique très bien aux questions fiscales. Parce que vous voyez, dans les impôts, il y a de l'évasion, il y a des fuites, il y a de la concurrence fiscale, il y a de l'optimisation. Et alors, s'il y a une demande démocratique pour un certain niveau de progressivité, s'il y a un mandat politique, là où les économistes peuvent se montrer utiles, ils peuvent dire, bon voilà, on va faire fonctionner les impôts. On va vous dire comment lutter contre l'évasion fiscale, comment collecter l'information, comment structurer les taxes de façon à annihiler, si vous voulez, les forces de la concurrence fiscale. Voilà. Donc, pas se substituer au débat démocratique, mais simplement permettre de réaliser les choix collectifs.
Y a un point quand même, parce que c'est bien de dire... Enfin, on comprend votre raisonnement en disant qu'il faut plus de justice fiscale. Ce qu'on peut se poser, c'est si on lève plus d'impôts, s'il y a plus d'impôts que payent les riches, les ultra-riches, j'ai envie de dire, c'est pour quoi faire. Vous voyez, c'est pas juste pour avoir un État qui soit un hydre et qui empêche peut-être des entreprises de se créer, de faire des jobs, etc. Vous voyez, de créer des jobs, etc.
Vous avez tout à fait raison.
Voilà. Alors, c'est ça la question fondamentale. C'est de l'impôt, pourquoi faire, quoi.
Vous avez tout à fait raison. Alors là, il faut quand même distinguer le cas des États-Unis du cas de la France, qui, sur ce plan-là, sont très différents.
Oui, d'où ma question.
Donc, les États-Unis, le taux de prélèvement obligatoire, c'est 28% du revenu national. Et c'est pas assez. Voilà. Pour le dire simplement, il faut que les États-Unis augmentent les impôts. Pourquoi ? Parce que leur état social, leur état providence a de graves lacunes. Il n'y a pas d'assurance maladie universelle. Donc, il y a des milliers de personnes qui meurent chaque année parce qu'ils ne sont pas couverts. L'accès, il n'y a pas de politique familiale. Il n'y a pas de crèche publique. Il n'y a pas de maternelle. L'accès à l'enseignement supérieur extrêmement coûteux. Donc les jeunes adultes entrent dans la vie active lestée de dettes. Donc tout ça... ça ne va pas. Il y a un besoin de plus d'impôts pour simplement que les États-Unis, avant même d'entrer dans le 21e siècle, entrent dans le 20e siècle. Ça, c'est les États-Unis. La France, c'est un cas différent. Voilà. En France, le taux de prélèvement obligatoire, c'est 50%.
L'échelle de Richter, quoi.
C'est 50% du revenu national. Ce qui permet de financer un État social auquel, quand même, la majorité des Français sont attachés.
Un État social.
Moi, c'est
pas la même chose.
Mais ce qui permet de financer un modèle social, vous avez raison, auquel les Français sont très attachés. Donc, l'enjeu en France, c'est pas d'augmenter le taux de prélèvement obligatoire.
Non.
Simplement,
on a des plus élevés du monde.
La question de la justice fiscale est particulièrement importante quand l'État prélève 50% des richesses qui sont créées chaque année et redistribue 50%, que ces prélèvements se fassent dans la justice. C'est fondamental. Or, le problème, j'insiste sur le fait que le problème d'injustice fiscale, de déclin de la progressivité au sommet pour les très riches, se pose aussi en France, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que, de même qu'aux États-Unis, le système fiscal est comme un grand impôt proportionnel, une gigantesque flat tax qui devient régressive au sommet, c'est la même chose en France, simplement avec 20 points de plus. Donc, au lieu de payer 28%, les classes moyennes et populaires en France payent 45-48%. Et les milliardaires, au lieu de payer 23% comme aux États-Unis, ils vont payer en France 40%.
Mais
on a le même problème.
Il y a une question que vous venez de soulever quand même assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un prélèvement, taux de prélèvement de 50%, même un peu plus, en France 52%, je crois. Et puis, il y a l'effet redistributif. Mais il y a qui est l'ordre de quoi? Qui est 30-33% l'effet redistributif en France. C'est pas 50-50 justement. C'est cette déperdition en ligne qui fait que souvent on se dit on paye trop d'impôts.
Alors, il y a la question que vous posez, c'est la question de l'efficacité de la dépense publique. Certainement, elle peut être améliorée. L'efficacité de la dépense privée peut aussi être améliorée. Il y a pas forcément de raison de penser qu'elle est beaucoup plus efficace.
Mais parce qu'elle
donc,
est soumise à
on
plus
peut
de
toujours
concurrence.
Faire mieux.
Elle est soumise à plus de concurrence.
Ah, mais on peut toujours faire mieux. Puis il y a des efforts de réforme, de modernisation de l'État qu'il faut accentuer, bien sûr. Mais bon, c'est une question qui se pose tout le temps, partout.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors Il y a des mesures concrètes. Il y a beaucoup de chapitres très intéressants sur l'évasion fiscale. Parce que vous montrez que on a l'impression que c'est un peu incantatoire, mais que finalement, ça débouche sur quelque chose de concret et de positif.
Alors, je voudrais illustrer effectivement cette idée importante en prenant l'exemple des sociétés multinationales.
Oui.
Donc, Nous, l'idée qu'on défend est l'idée suivante. On peut collecter le déficit fiscal des multinationales. C'est quoi le déficit fiscal ? C'est la différence entre l'impôt qu'une entreprise paye aujourd'hui et l'impôt qu'elle paierait si elle était soumise à un taux effectif minimal d'imposition, disons de 25% dans chacun des pays où elle opère. Donc ça, ce déficit fiscal, on peut le calculer pour chaque entreprise. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est zéro. Elles payent au moins 25% dans chaque pays. Puis il y a des entreprises, par exemple Google, il y a deux ans, a fait 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Bermudes, où le taux d'imposition est un taux assez modeste de 0%. Donc là, il y a un déficit fiscal. Google paye moins que ce qu'il devrait payer s'il était taxé à 25% dans chaque pays. Ce qu'on dit, c'est que chaque pays peut collecter ce déficit fiscal, peut jouer, si vous voulez, le rôle de percepteur fiscal de dernier ressort. Donc concrètement, la France pourrait dire, pour les entreprises dont le siège social est en France, on va collecter 100% de leur déficit fiscal. Donc si elles payent 5% de taux effectif d'imposition en Irlande, on va prélever les 20% manquants en France. Et pareil pour les autres paradis fiscaux. Ça, c'est pour les entreprises, ils ont, je sais pas, LVMH, Kering, les entreprises dont le siège social est en France. Pour les entreprises étrangères comme Google, on peut dire si elles font 10% de leurs ventes, leur chiffre d'affaires mondial en France, on va prélever 10% de leur déficit fiscal mondial en France. Donc on va faire payer les entreprises qui ont un déficit fiscal. Et ça, on peut le faire de façon unilatérale. On peut faire ça au 1er janvier 2021.
Est-ce que vous croyez que la fameuse taxe sur le numérique, taxe GAFA, donc initiée par la France, mais avec des avancées, on le voit bien, là encore ces derniers jours, au niveau de l'OCDE, est-ce que c'est une réponse finalement aussi à vos interrogations et à votre demande de plus de justice fiscale ?
Oui, je pense que c'est une initiative qui allait dans le bon sens. Donc autant je suis critique sur un certain nombre d'aspects de la politique fiscale de la présidence Macron, le remplacement de l'ISF par l'IFI, la flat tax sur la revenu du capital, autant cet aspect-là, la taxe GAFA, à mon avis, va dans le bon sens. Mais la réalisation laisse gravement à désirer. Donc je m'explique. Ça va dans le bon sens parce que l'idée qu'il faut parfois prendre des mesures unilatérales pour, in fine, aboutir à un accord, c'est une bonne idée. Et ce qu'il faut pousser. La réalisation laisse à désirer parce qu'il n'y a aucune raison, si vous voulez, de s'attaquer seulement au secteur du numérique.
Parce que c'est lui qui ébranle tout. Hein. On voit bien tous les secteurs
mais la délocalisation historique des bénéfices dans les paradis fiscaux, c'est un phénomène généralisé qui concerne aussi l'industrie pharmaceutique, la finance, l'agroalimentaire, l'automobile. Donc, il y a 600 milliards de bénéfices aujourd'hui qui sont chaque année, 600 milliards d'euros qui sont chaque année délocalisés dans les paradis fiscaux. Le numérique, c'est 10-15% du total. Pourquoi s'attaquer qu'à 10-15% et pas à 100%? Il n'y a pas de bonne raison. Le problème en ne s'en prenant qu'au numérique, c'est que il se trouve que le numérique est dominé par les Américains. Donc ça a par des sociétés américaines. Donc ça a ouvert un boulevard à Trump pour dire oh là là, c'est une attaque contre l'Amérique et donc je vais riposter en mettant des tarifs douaniers sur les voitures ou le vin français. Et c'est pour ça qu'on est dans une impasse. Or si la France avait pris une approche plus globale consistant à dire on va prendre des mesures pour toutes les multinationales, quel que soit leur secteur, leur nationalité.
On arrive à ça. Parce que là c'est pas uniquement sur le numérique.
Grâce à l'OCDE qui va introduire un impôt minimum.
Absolument, impôt minimum.
À voir. Tout dépend de quel est ce minimum. Si c'est 10%, ça ne sert pas à grand-chose. Si c'est 25%, oui, là, on arrive à quelque chose d'important. Simplement, la démarche est à saluer, mais il faut attaquer les problèmes à la racine.
Et puis vous dites, en fait, ça peut marcher. Toute dernière question, qu'est-ce qui vous démarque de celui, je crois, dont vous avez été l'élève de Thomas Piketty ?
Écoutez, nous, on s'inscrit, on travaille ensemble sur les inégalités, sur la fiscalité. Moi, ce qui m'intéresse.
Vous êtes un peu sur les mêmes lignes de force.
Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, si vous voulez, c'est.
30 secondes.
Ce qui m'intéresse, c'est de réécrire les traités de la mondialisation. Voilà, on a des traités aujourd'hui, une mondialisation qui bénéficie peu ou pas aux classes populaires et moyennes. Comment est-ce qu'on les réécrit pour réconcilier les peuples avec la mondialisation ? Moi, c'est ça. Ma réflexion d'ensemble.
Et puis il y a un peu urgence, justement, comme ça peut éviter un peu cette espèce de mouvement de contestation. Merci beaucoup, Gabriel Zucman.
Merci
et puis
vous.
Je vous conseille de lire ce livre parce qu'il y a plein d'arguments pour étayer son opinion. Après, on est d'accord avec vous, pas d'accord. Enfin, en tous les cas, il y a un débat qui naît après la lecture de votre livre. Le triomphe de la justice, c'est écrit, co-écrit avec Emmanuel Cez et c'est donc publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Voilà, bon retour aux États-Unis. Et dans un instant, c'est la patronne de la Française des Jeux. C'est un autre type de pari, c'est un pari sportif. Elle sera avec nous, Stéphane Pallez, d'ici une poignée de secondes.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Votre invité, c'est Stéphane Pallez, la présidente, la PDG de la Française des Jeux. Bonjour.
Bonjour Olivier Chevrillon.
Merci d'être là. Beaucoup de questions parce que vous avez publié très bons chiffres. Vous avez même dit une année historique. Alors historique, il s'est passé beaucoup de choses, notamment il y a la privatisation. Donc évidemment, c'est important. Vous me direz du reste si ça a boosté, si ça a eu un impact ou pas sur les paris sportifs et sur les Français qui jouent à la loterie. Peut-être une question, vous êtes une femme, par les temps qui courent. Alors vous n'êtes pas sur la liste des femmes qui traînent dans Paris pour remplacer Isabelle Cochère à la tête d'Engie.
Vous êtes
candidate ou pas, non ?
Moi, je suis très occupée par la Française des Jeux, donc je ne suis candidate à rien.
Oui. Mais vous, en tant que femme dirigeante, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que quelque part, ça ne vous agace pas en disant « Ah ben voyez, regardez, il y a 10 femmes qui sont susceptibles, ça existe, je l'ai trouvé, je l'ai rencontré ?»
Ah, si, ça m'interpelle forcément, ça m'agace un peu, et je me dis effectivement, s'il y avait plus de femmes à la tête d'entreprise du CAC 40 et du SBF 120, peut-être que on serait pas dans ce débat sur femme ou pas femme.
Ça serait banalisé, voilà. Quoi.
Exactement.
Un dirigeant qu'on convient ou qu'on vire pas. Après,
exactement.
Un choix
exactement.
Du conseil.
Ouais. Donc j'aimerais bien qu'on aille vers ça, mais on n'y est pas encore.
Non, il y a un petit peu de route, je pense qu'on recule. Enfin, ça, c'est encore une appréciation personnelle. Stéphane Pallez, est-ce que ça... Donc, une année historique, très bon chiffre. Est-ce que ça vous a boosté d'avoir été privatisé? Alors, c'est en novembre, hein, c'est à la fin, donc ça ne joue pas complètement. Oui. Est-ce qu'il y a un petit effet privat ou absolument pas?
Bon, c'est très difficile à dire parce que, vous l'avez dit, la privatisation, c'était le 21 novembre. Donc, c'est très difficile de dire que sur une année, ça a boosté. Ce qu'on peut dire, peut-être pour l'avenir, c'est que c'est clair que c'est une entreprise qui est peut-être encore plus connue des Français grâce à la privatisation. D'abord parce qu'on a beaucoup parlé de la Française des Jeux pour faire cette opération. On a fait une très, très belle campagne qui s'appelle Origine sur ce qu'est l'entreprise et sur ce qu'elle veut être également dans l'avenir. Donc, il y a certainement un effet de notoriété. Bon, on était déjà une entreprise très connue, mais on espère évidemment
que cet effet
de notoriété positive va jouer. Et puis après, on a beaucoup de Français qui sont actionnaires, puisqu'il y en a plus de 500 000, environ 500 000 qui ont acheté des actions lors de la privatisation et qu'on espère en garder beaucoup à nos côtés.
Taux de notoriété, il a augmenté de combien ? Vous avez fait, j'imagine, des études...
Non. Donc, il était de 97% quand fait la privatisation.
Oui, donc ça n'a aucun sens.
Alors après, la notoriété, ça peut être, encore une fois, ça peut être plus ou moins positif. Et ce que je pense qu'on va mesurer, c'est est-ce que ça a fait augmenter notre notoriété positive, c'est-à-dire à la fois la connaissance réelle de ce qu'est l'entreprise et de ce à quoi elle sert. Ouais. Ça, on ne le sait pas encore. Moi, mon sentiment, c'est que la réponse sera oui, mais on ne l'a pas encore mesuré.
En tous les cas, on peut presque se demander si vous n'avez pas été introduit un peu trop bas, parce que lorsqu'on regarde le parcours boursier de la Française des Jeux, on se dit bah, tant mieux pour les 500 000 Français qui ont investi dans... Ils sont toujours 500 000 du reste ou pas ? Est-ce que souvent les gens achètent au début et revendent ?
Non, ils sont un petit peu moins de 500 000 puisqu'il y a des gens qui ont, et ça fait partie des parcours boursiers, qui ont revendu pour profiter de la décote et de la hausse. On n'a pas encore les chiffres aujourd'hui puisqu'en fait, on n'a pas fait ce qu'on appelle un TPI, c'est-à-dire la mesure de notre actionnariat. On le fera en fait pour notre Assemblée Générale d'avril. Donc on saura, donc on peut penser de toute façon qu'il y a forcément un volant de gens qui d'une part ont profité de la décote de prix et effectivement de la hausse du cours. Alors néanmoins, je pense que le bon calcul, si je puis me permettre, c'est quand même d'attendre de bénéficier de l'action gratuite qu'on a au bout de 18 mois quand on a acheté au moins 10 actions. Donc une action gratuite pour 10. Donc c'est en fait à ce moment-là que ça peut se jouer.
Là, vous pensez qu'il y a déjà un tiers, je ne sais pas si j'ai un chiffre comme ça, un tiers des actionnaires qui ont déjà revendu ou pas, ou pas.
Alors, encore une fois, on ne sait pas.
Non,
c'est beaucoup trop un tiers. Moi, je pense que on peut estimer, d'après les indices qu'on a, qu'on n'est peut-être plus à 500 000, mais plutôt à 400 000, ce qui est encore un actionnariat de Français extrêmement important. Et encore une fois, je pense que ces actionnaires, ils ont compris qu'on n'était pas un placement pour un coup de bourse à court terme, mais qu'on était un placement dans la durée, avec du rendement. Et donc, on espère qu'ils vont nous accompagner un certain temps et leur donner raison.
Ouais. Est-ce que du coup, parce qu'aujourd'hui, grosso modo, après la privatisation, donc l'État est maintenant à 22%, les institutionnels sont à 37%, les actionnaires individuels 19%, la fameuse association d'anciens combattants 15%, puis les salariés 7%. Vous voyez une évolution ? Quelle tendance dans l'évolution de votre capital ?
Alors d'abord, ça c'est les chiffres qui étaient ceux du 21 novembre.
Ouais.
Donc probablement on va voir, mais encore une fois il faut être prudent. En avril, on verra que les particuliers ont diminué un petit peu, les salariés aussi, parce que certains salariés étaient actionnaires depuis longtemps et donc ils ont aussi réalisé des plus-values. Donc ça va bouger un tout petit peu. Le reste, à mon avis, on est parti pour garder à peu près ce type de proportion. Donc l'État, quand il aura donné les actions gratuites, il sera à 20%, et on est plutôt sur une stabilité de cette structure d'actionnariat, avec évidemment des mouvements par définition au sein des actionnaires institutionnels. Il y a des gens qui se sont renforcés, il y en a un qui est apparu récemment publiquement, qui est Prédica, qui a donc déclaré qu'il avait franchi le seuil de 5% de notre capital. C'est tout à fait le genre d'actionnaires, j'allais dire, qui sont cohérents avec la Française des Jeux, c'est-à-dire des gens qui cherchent du placement de long terme, dans la durée, qui ont une vision longue de cet investissement. Et donc, on en a évidemment pas mal comme ça, et on est très content d'en avoir à nos côtés.
Lorsqu'on regarde vos résultats pour 2019, on voit donc un chiffre d'affaires en augmentation de 8,5%, à près de 2 milliards. Mais on voit quand même une baisse du bénéfice net en chute de 21%, presque 22%. Notamment, c'est le notamment qui m'intéresse, à cause des frais d'introduction en bourse.
C'était prévu.
Et c'est combien ?
C'est plus de 30 millions.
Non, mais si je vous pose la question là, parce que d'abord, tout le monde ne le sait pas, que c'est si cher, et qu'on reçoit beaucoup de chez l'entreprise, de PME, de TI, donc un peu plus petits, enfin, ou même des ETI qui peuvent avoir votre taille, et qui disent, ça coûte beaucoup trop cher d'aller en bourse. Là, appuyez un peu ça.
Mais c'est une opération exceptionnelle, j'allais dire, pour une entreprise qui a cherché à avoir beaucoup d'actionnaires particuliers. Et ça, ce n'est pas le cas de toutes les introductions en bourse. Ouais. Donc, ce qui explique l'importance de ces frais qu'on avait annoncé dès le départ, donc il n'y a pas de surprise sur les internets en fait, de ce point de vue là c'est le fait qu'on a fait une très très grande campagne de communication pour compenser quelque chose qui est la réglementation actuelle, qui est le fait qu'avec MiFID 2, les banques ne peuvent pas aller proposer les actions directement à leurs clients comme dans le passé. Donc il faut en quelque sorte compenser ça par beaucoup de communication de l'entreprise particuliers. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, avoir beaucoup d'actionnaires particuliers, ça coûte de l'argent. Encore une fois, je pense que les PME, elles ne sont pas toutes allées chercher 500 000 actionnaires. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Donc, je pense qu'on est un petit peu à part de ce point de vue-là. Quand on voit, encore une fois, le succès de cette opération et ce que vaut l'entreprise aujourd'hui, ça va.
Oui, mais enfin, ça, c'est...
C'est un investissement de long terme.
Vous auriez pu partager avec Bercy, ça, parce que c'est Bercy qui voulait faire une démonstration succès des privatisations.
Bercy
a payé... Leur dire, vous voulez le succès, avoir des particuliers, vous en prenez la moitié en charge, non ?
Bercy a payé le syndicat bancaire. Donc, chacun paye ce qu'il doit payer.
Oui, mais là, comme ça peut... Est-ce que c'est un petit signal par rapport aux privatisations, Stéphane Pallez ? Parce que Engie, pour l'instant, c'est un peu compliqué, on va attendre. Mais pour vous, ça montre quand même qu'il y a une appétence ? Vous en tirez
quoi
comme leçon ?
Ce que ça montre, d'une certaine manière, c'est indépendamment du sujet de privatisation, c'est qu'il y a une appétence des particuliers pour des placements en bourse, dès lors qu'on leur offre des profils qui leur parlent, c'est-à-dire une entreprise qu'ils connaissent et qui, je pense, qu'ils connaissent de mieux en mieux, et du rendement dans la durée fondé sur un modèle de croissance régulière, dans un cadre régulé, avec un monopole sur 25 ans. Donc, il y a une place pour de l'actionnariat particulier sur des entreprises de ce type-là.
Alors, j'ai envie de dire que le bon indicateur pour vous, en tous les cas, c'est parce que les joueurs ont misé. Ce sont les mises des joueurs. Là, une augmentation très importante. Une indication, je cherche le chiffre.
9%.
C'est 9%, voilà. Après, près de 18 milliards. C'est impressionnant quand même, non ? Malgré les difficultés, malgré les mouvements sociaux, malgré les gilets jaunes, malgré...
Ça confirme ce qu'on sait depuis plusieurs années, et c'est quelque chose qu'on a évidemment beaucoup observé pour se demander si on a été sensible à la conjoncture. D'ailleurs, j'ai souvent la question dans les deux sens. Est-ce que les gens jouent plus quand ça va mal ? Est-ce qu'ils jouent plus quand ça va bien ? Donc, ni l'un ni l'autre. Donc, nous sommes une entreprise, et ça fait partie des choses qu'on a expliquées au moment de la bourse, qui n'est pas sensible au cycle économique. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie, en fait, du quotidien des Français, parce qu'on est sur un modèle économique dans lequel il y a beaucoup de joueurs qui jouent chacun de faible mise. Donc quand il y a une pression économique, c'est pas ce qui est sous pression, en tout cas quand on est dans une conjoncture économique, j'allais dire normale. Mm-hmm. On est quand même en croissance économique en France aujourd'hui, il faut quand même le rappeler. Et donc ce qui est en fait exceptionnel pour nous cette année, c'est que toutes nos activités ont été extrêmement positives. C'est-à-dire qu'on a à la fois fait une très bonne année sur la loterie, sur le tirage, comme sur les jeux instantanés. Et on a fait aussi une très bonne année sur les paris sportifs, ce qui n'était pas forcément facile à prévoir, puisque c'est une année où il n'y avait pas de grands événements sportifs, comme on l'a eu en 2018 avec la Coupe du Monde.
Et alors, ils ont été sur quoi, les paris sportifs ?
Alors, ils ont
été... Vous allez vous rattraper bientôt. Hein.
Alors, ils ont été surtout. Donc, ça confirme le fait qu'on a un marché des paris sportifs maintenant qui, en France, a une dynamique propre, indépendamment des grands événements, et qu'on peut continuer à stimuler en ayant une offre qui soit plus attractive, plus diversifiée. Alors, il y a quand même eu des événements moins importants que la Coupe du Monde de foot, mais il y a quand même la Coupe du Monde de foot féminin qui a marché beaucoup mieux qu'on ne l'a jamais pensé. Alors, pardon, j'ai oublié le chiffre exact maintenant, mais c'est pas du tout comme une Coupe du Monde masculine où on avait plus de 300 millions de mises exceptionnelles. Donc, encore une fois, on est sur des événements qui sont plus petits, mais on a aussi la coupe d'Afrique des Nations qui a très bien fonctionné aussi. Et en fait, je pense qu'à la fin,
là,
encore une fois,
c'est le marché. On est dans les 500 000, on est quoi ? Vous avez une...
Non, mais on est dans les quelques millions de mises. Donc, encore une fois, c'est pas ça qui fait l'année. Ce qui fait l'année, c'est notre capacité à enrichir notre offre et sur le point de vente et sur en ligne, puisque nous sommes sur les deux, avec des offres. Alors, par exemple, on a enrichi notre offre sur le basket. On a fait un partenariat avec la NBA. Mmh. Et sur les baskets, nos mises ont augmenté de 40%. C'est beaucoup moins fort que le foot. Donc, c'est des chiffres moins élevés. Mais c'est ça qui fait une année dynamique au total. C'est l'ensemble du marché qui progresse. Et on verra d'ailleurs dans les semaines qui viennent que le marché en ligne, de toute façon, a beaucoup progressé aussi. Donc, c'est pas que la Française des Jeux. Mais on a su bien tirer notre épingle du jeu.
Le pari sportif sur le tournoi de destination, ça marche ? Vous êtes dessus ou pas ?
Nous, on est sur tous les événements sportifs. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ceux qui dans les paris sportifs, le foot, c'est plus de 50%.
Oui, ça, d'accord. Non, mais voilà. Le rugby,
c'est très au-dessus. Le rugby fait partie des quatre sports qui sont en dessous, avec le basket, le tennis, donc le rugby, et pardon, j'en ai oublié un, mais en fait, le rugby fait partie des 3-4 sports qui sont les plus importants en dessous du foot. C'est sans comparaison avec le foot, quand même.
Oui, c'est quand même ça. Ça,
donc cette année, l'Euro 2020.
Ouais. Ben, c'est pour ça que l'Euro 2020, ça va...
Voilà. On a donc parlé une grande année de sport. Ouais. Et
tout
de paris sportifs.
Et j'en parlais ce matin avec Nicolas Taverneau, le patron de l'Office, effectivement, c'est pour ça.
Bien sûr.
La Saint-Valentin, tiens, ça a marché ou pas ?
Saint-Valentin, ça a marché comme d'habitude.
Oui, voilà, ni donc, plus ni moins.
Non, mais c'est comme un tirage exceptionnel, donc une quinzaine de millions d'euros de mise. Donc c'est une bonne Saint-Valentin, mais c'est pas exceptionnel.
Quel est le jeu qui marche le mieux ? C'est toujours un peu la question que je vous pose à chaque fois, mais parce que c'est vrai qu'on c'est intéressant de voir qu'est-ce qui séduit le plus. C'est le tirage, c'est le grattage, c'est
Alors cette année, donc le tirage a très très bien marché, notamment le relancement du loto qu'on a fait en fin d'année. Alors c'est sur 2 mois, mais ça a très très bien fonctionné. Et là, on est en plein relancement d'Euromillion qui a commencé début février. Donc on est en train de relancer nos grands jeux de tirage emblématiques. L'Euromillion, on a une nouvelle campagne publicitaire aussi.
Le prochain, c'est quand ?
Alors l'Euromillion, donc c'est toutes les semaines, donc c'est plusieurs fois par semaine, donc oui. C'est en cours aujourd'hui, donc on est sur un nouvel Euromillion, mais qui se déroule 3 fois par semaine. Hein, donc,
oui, ce que je veux dire, mais c'est le moment où ça devient intéressant, là où il y a tous ces fameux.
Alors on n'est pas encore,
le
gros jackpot, en fait, il a été gagné par un Espagnol la semaine dernière, et donc là on est de nouveau dans des jackpots intermédiaires.
Mais à chaque fois on repart à zéro, quoi. Oui.
On repart pas tout à fait à zéro. Mais on n'est pas encore dans les niveaux d'Euromillion où on en parle le plus quand on atteint 50, 100, voire au-dessus de 100, puisque c'est... Et quand on fait des gros jackpots, c'est 130 millions. Il a donc été gagné, celui-là. Donc là, on est dans une phase où on est en train de repartir dans un cycle dans les semaines qui viennent. Donc ça, c'est les jeux de tirage. Les jeux de grattage, on a maintenant des jeux de grattage qui forment ce qu'on appelle des familles. Donc par exemple, la famille mots croisés, aujourd'hui, c'est 1 milliard de mises par an. Donc en fait, on a des familles de jeux qui sont très fortes et très populaires. On a évidemment un jeu qui s'appelle Cash qui reste toujours très très important. À côté, on a des jeux qui sont peut-être des jeux moins forts en termes de mises, mais qui sont très forts en termes de communication, comme évidemment les jeux sur le patrimoine, qui sont des jeux qui sont une fois par an, donc on n'a pas du tout le même type de niveau de mise, mais qui sont très importants et qui attirent des joueurs qui ne viennent pas jouer à d'autres jeux. C'est ce qu'on a vu sur les jeux du patrimoine. Donc cette année, on est en train donc de continuer à vendre l'an 2 du patrimoine en attendant l'an 3 qui sera en septembre prochain. Et on a déjà collecté le même niveau de revenus pour la Fondation du patrimoine que celui de l'année dernière. Donc plus de 21 millions pour la Fondation du patrimoine. Absolument. Mais les ventes ne sont pas terminées. Donc ça, ça c'est important pour nous aussi.
J'ai une question là-dessus. Finalement, on a vu toute la polémique avec Bercy qui veut prélever sa dîme, son impôt. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Stéphane Bern avait dit, elle protestait. Donc après, on a entendu le président dire, non, c'est pas normal, etc. Puis après, on a vu repasser ça par la fenêtre. Donc, quoi la situation?
Alors, la situation, c'est que le ministre de la Culture et le ministre de l'Action des Comptes Publics se sont engagés à reverser, comme pour la première édition, le montant des taxes en plus des prélèvements sur les jeux. Donc, en plus des 21 que j'ai déjà, que je flèche déjà vers la Fondation du patrimoine, il y aura alors un montant que je ne peux pas donner aujourd'hui, mais qui est de entre 10 et 20 millions de taxes qui sera reversé, donc comme la première année. Donc ça, c'est le mécanisme en quelque sorte, c'est un engagement qui est très personnellement.
La question que
Stéphane Bern a posée et sur lequel il y a eu un engagement de trouver une solution pérenne, c'est est-ce qu'on pourrait trouver un mécanisme dans lequel on passerait plus par ce système de prélèvement de taxes et de reversement. Il est à l'étude, donc c'est trop tôt pour le dire. Mais l'important, c'est que le montant des taxes va au ministère de la Culture sur les crédits patrimoine. Et ça, c'est un engagement qui est politiquement garanti.
Ça c'est sur le patrimoine. C'est tout à fait important parce que c'est un peu la première fois qu'il se passe quelque chose comme ça. Vous pourriez le décliner ou pas? Oui, je pense au Téléthon. Le Téléthon, c'est sur France Télévisions avec un système particulier. Mais est-ce qu'on pourrait le décliner
Alors, moi, je pense que le patrimoine a quelque chose de très particulier qui fait que c'est très approprié de le faire comme ça. Parce que le patrimoine, c'est une cause qui est une cause vraiment nationale. C'est une cause territoriale. C'est-à-dire que la manière dont on l'a décliné, ça consiste en fait à montrer aux gens pourquoi ils jouent, pour quel monument ils jouent. Mmh. Et on va leur montrer cette année comment l'argent qu'on a collecté a restauré ces monuments, a permis de les rouvrir. Donc c'est pas facile de trouver ce même ancrage territorial sur une autre cause. Donc bien entendu, en théorie, ça peut être décliné. Moi, je suis déjà pour installer dans le temps le patrimoine, qui me paraissait une cause nationale pérenne. Donc je pense qu'il faut que ce soit un jeu pérenne. Et donc mon objectif, c'est d'en faire un succès pérenne et un jeu pérenne. Et puis après, on verra.
On verra. Justement, je rebondis dans la question que j'allais vous poser. Maintenant, on a vu 2019, donc tout s'est bien passé, mais parce qu'il y avait, j'ai envie de dire, c'était facile, entre guillemets, même s'il a fallu tout réorganiser. Maintenant, ça y est, vous avez...
s'est bien passé.
Vous saviez ce qu'il fallait faire. Là, maintenant, je veux dire, il faut se projeter dans l'avenir, il faut inventer. Là, vous allez être dans la création. C'est là où je dis, c'est peut-être...
On était déjà dans une entreprise innovante et créative. Ouais. Voilà. Il faut continuer. Alors, là, c'est la stratégie qu'on a exposée au moment de notre privatisation. C'est-à-dire qu'on veut à la fois continuer à développer nos activités existantes. Donc ça consiste à innover et sur la loterie et sur les paris sportifs. Et donc, tous les ans, on innove. Et cette année, on va innover. Par exemple, à propos d'événements exceptionnels, on va, cette année, commencer à mettre en place notre partenariat sur Paris 2024 en faisant notre premier Jeux Olympiques et Paralympiques avant cet été, puisque notre partenariat commence avec les Jeux de Tokyo en 2020. Donc c'est notre innovation pour continuer à développer nos activités. Et sur les paris sportifs, on a vu que cette année, on avait une croissance donc de 16%, qui est une croissance tout à fait exceptionnelle de nos mises sur les paris sportifs. L'année prochaine, c'est une année d'euros 2020, donc on pense que ça peut être une très bonne année de croissance aussi, mais en continuant à innover innover sur l'offre. En fait, on est une entreprise de marketing. Alors, ce qui est plus créatif, si vous voulez, plus différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est le développement de ce qu'on appelle nos activités dites adjacentes.
Voilà, c'est le troisième pilier.
Troisième pilier, oui. Tout à fait. Donc, c'est l'international. Donc, l'international, on a déjà une activité de vente de nos services à l'international, notamment nos services de gestion des paris sportifs, par exemple. On s'est renforcé en faisant une acquisition pour avoir une offre qui soit plus importante pour plus de clients internationaux. Donc ça, c'est un nouveau thème de croissance de la Française des Jeux. Et à côté, on développe d'autres activités adjacentes. Alors, il y en a une dont il faut parler aujourd'hui parce que c'est l'actualité, qui est que sur la base de notre réseau de points de vente et de notre infrastructure, donc nous allons proposer plus de services. Et dans les services qu'on va proposer, eh bien, il y en a un sur lequel on a gagné un appel d'offres donc l'été dernier avec la Confédération des buralistes, qui est la possibilité d'aller payer dans des points de vente de proximité ses impôts ou d'autres factures ou des amendes, parce que ça peut arriver aussi, donc chez son buraliste, grâce aux terminaux que nous avons chez les buralistes et au développement qu'on a fait avec eux. Et ce déploiement, il commence donc dès la fin de ce mois de février jusqu'en juillet prochain. Et donc en juillet prochain, vous aurez plusieurs milliers de points de vente sur le territoire où vous pourrez avoir accès à ce service. Et ça, c'est tout à fait emblématique de notre stratégie de développement des services dans les points de vente.
Oui, voilà, justement, parce que je voulais finir par ça, parce que c'est effectivement le... Non, mais c'est un peu c'est la nouveauté, mais surtout, ça ouvre tout un champ de... Parce que vous pouvez aller très, très loin en utilisant ces terminaux. Et on voit bien que tout le monde cherche à trouver du business pour les buralistes, les cafés, parce que c'est difficile, etc. Là, vous offrez des perspectives.
Oui, oui.
Mais perspectives aussi pour la FDJ, pour la Française des
Jeux.
Oui,
mais c'est déjà... Je pense que la première raison, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que nous, on a un très grand réseau de proximité, le premier de France, qu'on a réussi à stabiliser à 30 000 points de vente grâce aux efforts d'investissement. Et notre intérêt, c'est que ce réseau reste économiquement en bonne santé, qu'il y ait du trafic dans ce réseau, qu'on l'utilise pour offrir effectivement plus de services, pour avoir, encore une fois, un réseau qui soit performant, économiquement durable. Et donc, ce service, il contribue à ça, puisqu'il fait des revenus pour les buralistes, mais surtout, il contribue à ce que ce réseau il soit utile. Et d'ailleurs, le service, c'est paiement d'utilité, c'est oui, paiement local, paiement de proximité. Donc, ça fait partie des services dont on a besoin sur le territoire français. Et c'est très important.
Et comme on dit, c'est du gagnant-gagnant ou du donnant-donnant, parce que vous en avez
besoin
aussi.
Gagnant-gagnant.
Merci beaucoup, Stéphane Palaise. Donc, toute contente de sa privatisation. La patronne de la Française des Jeux était notre invitée. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain, 8h15. Et puis l'orage, bonne journée.